sport. Voici Mario Langlois.
Sans contredit, l'événement de la fin de semaine, pour moi, je sais pas pour vous autres, mais ça a été la présentation du match entre Montréal et Toronto de la LPHF samedi après-midi au Centre Bell. Quelle ambiance survoltée, je vous le dis. Il fallait être là pour le vivre. Probablement que toutes ces vibrations-là se rendaient, traversaient la radio, traversaient via la télévision, mais sur place, c'était quelque chose de mémorable. Et comment elle l'a vécu? Je sais qu'elles ont raconté un peu quelques-uns des sentiments qui les animaient dans les entrevues d'après-match, mais on a le privilège d'amorcer la semaine ce soir avec la gardienne de but de Montréal, l'une des deux gardiennes, évidemment, celle qui était d'office samedi, Anne-Renée Desbiens. Bonsoir, Anne-Renée.
Bonsoir, Mario.
Alors, dis-moi, 48 heures plus tard, es-tu revenue sur la Terre?
Je suis revenue sur la Terre, oui et non. Je veux dire, c'est encore dur à croire, justement, qu'est-ce qui s'est passé samedi. Comme tu as mentionné, l'ambiance électrisante, les fans ils étaient tout simplement extraordinaires. L'accueil chaleureux que les deux équipes ont eu. Donc, ça fait vraiment changement. Et puis, c'est un souvenir pour moi, un des matchs que je vais me souvenir longtemps dans ma carrière.
Juste avant d'entrer sur la glace, on te voyait à la caméra en gros plan, comme danser là, au rythme de la musique. Puis là, je me disais, hey, cool, Anne-Renée m'a dit que, comment dirais-je, elle n'est pas du tout intimidée par le moment. Rendu sur la glace, cependant, sur la ligne bleue, tu sais, je voyais comme Marie-Philippe ravaler. Marie-Philippe est une femme réservée, je sais pas si tu serais d'accord pour dire ça, en tout cas pour le public, peut-être pas pour vos coéquipières. Mais l'as-tu déjà vu, puis vous n'avez vécu des grands moments là, sur l'équipe nationale, toutes les deux, puis bien d'autres, mais l'as-tu déjà vu comme être ébranlé, entre guillemets, positivement comme ça par une réaction de foule?
Oui, Marie-Philippe est effectivement très réservée. C'est probablement une personne les plus humbles que j'ai rencontrées dans ma carrière pour être justement sa coéquipière, de l'avoir eu du succès autant sur la scène internationale que dans les ligues professionnelles. Elle mérite cette ovation, puis je suis vraiment contente que les partisans lui aient donné. Puis tu sais, je pense que cette fois-là, elle l'a appréciée aussi. Là, ça lui a vraiment fait chaud au cœur. Et puis, toutes nous autres, on était très contentes pour elle. Mais oui, elle était très émue. C'est la meilleure joueuse au monde. Et puis, je suis vraiment contente de l'avoir dans mon équipe.
L'ambiance était incroyable. Je le disais dans mon introduction, là, c'était carrément survolté. Beaucoup de jeunes femmes. Tu sais, quand on demande au tableau, venez-vous de la Rive-Sud, Rive-Nord, West Island, femmes, hommes, c'était impressionnant. Dirais-tu que c'est un bon reflet de proportionnellement de l'appui que vous sentez des femmes et des hommes également autour de Montréal et de la LPHF?
Oui, c'est très proportionnel. Je pense qu'on voit beaucoup plus d'équilibre. Autant d'hommes, des femmes, des personnes âgées, des plus jeunes, des moins jeunes. Donc, on aime beaucoup la diversité des partisans qu'on attire. Et puis, c'est ce qui fait que c'est un milieu qui est inclusif, que les gens aiment venir, qui peuvent être eux-mêmes et puis avoir du plaisir. C'est des gens, des fois, qui peut-être que le sport ne les intéressait plus pour certaines raisons, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on a réussi à gagner le cœur des partisans qui peut-être le hockey, c'était plus pour eux.
J'ose même pas imaginer le bruit qu'on aurait entendu là si vous aviez gagné en prolongation. Ben c'est cruel, le sport. Il y a une équipe qui perd, il y a une équipe qui gagne, Anne-Renée. Mais est-ce que tu sais, c'était tellement un événement que je dis pas que la défaite, c'est pas important, là, mais comment tu l'as encaissé, comment vous l'avez encaissé, la défaite, dans les circonstances?
Admettons qu'elle a été plus rapidement oubliée que d'autres dans ma carrière, dans le sens que justement, c'était un moment historique pour le hockey féminin. C'est un moment qui était plus grand qu'une victoire ou une défaite. Les partisans ont eu un excellent spectacle sur la patinoire. Et puis pour nous, c'est ça, c'est oui, le score, on aime toujours gagner, surtout dans des moments comme ça. Mais à la fin de la journée, le moment reste le même. Et puis je suis contente que le record soit rendu ici à Montréal.
Toi, as-tu déjà vécu quelque chose de plus gros que ça en termes d'happening par rapport au hockey féminin? Puis c'est pas l'équipe Canada, là, c'est Montréal en plus, là.
Non, c'est certain que l'équipe Canada a déjà rempli des arénas de la Ligue nationale. Mais la foule n'est pas la même dans le sens que tu sais les gens vont venir voir un match d'équipe nationale, mais t'es pas des partisans de l'équipe dans le sens que tu ne suis pas à longueur d'année comme les partisans ici à Montréal font. Donc les gens ils étaient très impliqués dans la partie, tu vois, qu'ils nous supportent au travers justement des victoires et des défaites. Donc, la foule était différente de ce que j'ai. Puis c'était de loin la plus brillante, la plus impliquée. Comme tu as mentionné, avec les choses sur le tableau, Rive-Sud, Rive-Nord, tu vois que les gens venaient un petit peu de partout. J'aurais bien sûr mon Charlevoix puis la Beauce, mais
bon, je pense qu'il y aurait eu du bruit en masse. T'as vu toute ta... Je sais pas si t'as vu toute ta gang, mais ils étaient une belle gang, hein, qui sont descendus.
Ah, j'ai pas vu toute ma gang, je pense. Il y avait peut-être un petit peu trop de monde, mais j'en ai vu après sur mes médias sociaux pas mal qu'il y avait été là.
J'ai l'impression, puis je sais pas toi, qu'est-ce qui t'a allumé de devenir une joueuse d'hockey, puis par la suite de devenir une joueuse d'élite, mais je suis convaincu qu'on entendra des histoires dans je sais pas combien d'années de jeunes filles devenues femmes ou jeunes femmes qui vont dire, moi, ces jours-là, quand on a battu le record de hockey féminin pour une assistance au Centre Bell, as-tu l'impression que c'est ça qui s'est passé pour plusieurs, même si tu peux pas être dans la tête du monde, mais vous avez sûrement eu des retours, des courriels, des... Hey, je pense qu'il y avait du monde qui vous attendait 3h30 après le match dehors à sortie, là.
Ça m'a pas pris 3h30 pour sortir, mais il y a définitivement une bonne gang qui nous attendait quand moi je suis sortie. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, quand j'étais jeune, je rêvais de jouer dans le national, c'est tout ce qu'on voyait à TV, je rêvais de remplir justement le Centre Bell, de gagner la partie numéro 7, lever la Coupe Stanley, mais maintenant, justement, les jeunes filles vont pouvoir vivre ce moment-là, justement, en passant à rêver de jouer dans la Ligue féminine, en rêvant de mettre le chandail de l'équipe de Montréal, de remplir les arénas, d'entendre la foule scander leur nom à eux et de leurs coéquipières. Donc, je pense que justement, il y a beaucoup de filles qui vont pouvoir rêver d'avoir leur propre ligue à elles et puis de remplir leur Centre Bell à leur tour.
Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. C'est un moment vraiment qui va être ancré dans la mémoire collective. Iron Ambrose, l'une de tes coéquipières, a été nommée la première étoile de la semaine dans la LPHF. On parle beaucoup de Marie-Philippe, on parle beaucoup de toi, mais il y a d'autres excellentes joueuses au sein de cette équipe. Parle-moi de l'apport d'Iron Ambrose à l'équipe de Montréal.
C'est une héros obscure dans notre alignement, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une joueuse justement qui apporte beaucoup à l'avantage numérique, en désavantage numérique. On a une brigade défensive qui est peut-être un petit peu plus jeune que la moyenne, donc elle apporte beaucoup justement de leadership, de constance. Donc je suis vraiment contente justement qu'elle ait réussi à avoir du succès sur la feuille de pointage cette semaine et puis qu'elle soit reconnue à sa juste valeur au niveau de la Ligue.
Qu'est-ce que tu as pensé de votre performance samedi?
Ben là, c'est notre cinquième défaite en cinq cette année contre Toronto, mais c'est de loin le meilleur match qu'on a joué en général. Je pense que on aurait pu mériter de gagner. La game aurait pu aller des deux côtés. On a réussi à jouer à créer des chances offensivement, on n'a pas réussi à finir assez. Mais on peut être fier justement du jeu qu'on a mis sur le patinoire.
Dis-moi, est-ce que tu as senti de la nervosité au sein de ton équipe et même toi-même, as-tu ressenti la nervosité? Parce que c'était un happening, c'était un événement spécial. J'ai pas l'impression, en tout cas pour nous, que c'était un match comme les autres, pour vous.
Ah, c'est définitivement pas un match comme les autres, mais personnellement, j'étais pas nerveuse, j'étais vraiment excitée à l'idée. C'est pas un match sans lendemain. On sait qu'on perd pas une position pour les séries. Il faut continuer de s'améliorer aussi. Mais j'ai vraiment décidé cette fois-là de profiter du moment, de regarder autour de moi, d'absorber, comme tu as mentionné, un petit peu des vibrations que tout le monde sentait, de vraiment vivre ce moment-là avec les partisans, avec mon équipe, et puis d'en profiter autant que je pouvais. C'est certain qu'une victoire aurait été encore mieux. Mais ça n'enlève aucun. Ça n'enlève rien au moment spécial que j'ai vécu.
Quelques défaites en prolongation contre Toronto, mais au total, au sommaire, c'est 0-5. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que vous autres? Qu'est-ce qu'elles ont fait de mieux que vous autres pour remporter toutes ces rencontres-là, Anne-René?
C'est une équipe avec une excellente éthique de travail. Elles travaillent fort, elles sont physiques, elles apportent des rondelles au filet, beaucoup de trafic devant moi. Donc, c'est des points qu'il va falloir justement qu'on adresse en tant qu'équipe, comment défendre, comment s'améliorer. Mais justement, comme j'ai mentionné, c'est notre cinquième match contre elle, de loin le meilleur. Donc, c'est ça dont je viens justement pour les séries.
Lors d'une entrevue précédente cette saison, Anne-René, on a abordé ensemble l'aspect physique de la LPHF. Il y a eu quelques contacts assez solides, mais particulièrement, puis je sais que tu en as parlé dans l'après-match avec Martin, Danny, Isabelle, devant ton filet, clairement, Toronto, là, c'était vraiment de te nuire le plus possible, même de te bousculer, hein. Comment as-tu vécu ça? Puis est-ce que c'est la norme maintenant contre toi et même celle qui est avec toi devant le filet pour Montréal?
Ah, j'ai l'impression que c'est le mot d'ordre que Toronto s'est donné. Faut comprendre que j'ai beaucoup de coéquipiers sur l'équipe nationale, beaucoup de membres justement des entraîneurs de l'autre côté qui jouent avec moi sur l'équipe nationale, donc qui ont peut-être utilisé ça à leur avantage aussi pour essayer de me déranger. Mais tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game. C'est une équipe qui est faite comme ça. Tu sais, que ce soit contre la gardienne ou contre nos joueurs, qui vont toujours finir leur mise en échec, un petit coup après s'ils font des choses comme ça. Mais justement, maintenant on le sait, on s'en attend, puis on se prépare pour ça parce que je suis confiante qu'on va les recroiser.
Par rapport à l'événement comme tel, est-ce que tu peux dire que tu as eu un moment préféré dans tout ça?
Ah, mon moment préféré, c'est certain que l'alignement de départ. d'entendre ton nom au Centre Bell, Marie-Philippe recevoir l'ovation qu'elle mérite, toutes ces choses-là, ton cœur, t'as des frissons, c'est dur à exprimer. Tu te regardes partout autour de toi, puis c'est vraiment pour toi que les gens y crient. Donc, ce moment-là, c'est de loin mon préféré de la partie.
Ton souhait d'ici la fin de la saison et pour les séries, Anne-Renée?
Bien sûr, remporter le premier championnat à Montréal, c'est mon plus gros souhait, puis remplir les arénas, peu importe où est-ce qu'on joue à chaque fois.
Bien, Anne-Renée, merci beaucoup d'avoir fait une parenthèse dans ta journée de congé média, puis bon retour à l'entraînement demain. Bonne chance pour vos matchs cette semaine, mercredi en fin de semaine.
Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Et on retrouve maintenant celui qui était là d'ailleurs au Centre Bell, lui aussi avec Martin et Isabelle Étier pour décrire et analyser le match entre Toronto et Montréal, qui est en mode série lui aussi, évidemment avec le début des séries dans la LNH. Danny Dubé, bonsoir Danny.
Salut Mario.
Juste avant de parler des séries, je m'en voudrais pas te poser la question. As-tu aimé ce que tu as vécu? Comment tu as vécu ce match de hockey féminin samedi après-midi?
Ben moi j'étais emballé par évidemment le niveau de jeu, la compétition entre les deux équipes était très forte, très très relevée. On a eu un excellent match. L'atmosphère, j'ai adoré l'atmosphère. J'ai trouvé que la foule, il y avait comme une espèce de vague d'amour autour de cette ligue-là qui est vraiment et de notre équipe à nous à Montréal, qui était vraiment c'était neuf. Pour moi, c'était du nouveau. Ça permet à la ligue et au hockey en général de grandir avec un événement comme ça. Fait que moi, je me suis régalé.
Ben, je comprends donc, puis je suis content que tu l'aies vécu comme ça, puis je pense que ça a été vraiment, c'est une opinion généralisée. Maintenant, on passe en mode série dans la LNH. Il y a des gens qui m'écrivent déjà pour critiquer les arbitres. Comment ça se fait que les arbitres callent pas les pénalités? Observes-tu déjà un changement de façon d'officier en ce jeune début de séries éliminatoires, Danny?
Oui, c'est sûr que c'est plus permissif un petit peu, là, mais quand même... Il faut quand même que les gens réalisent, là, j'imagine, que les gens réalisent que ça brasse beaucoup plus aussi. Là.
Ouf, pas à peu près. Hein?
Je regarde, là, je donne des chiffres, OK, très, très rapidement. Là. Normalement, dans un match, tu as entre 15 et 20 mises en échec. 25. Mm-hmm. Un match très physique en saison, tu en as 30.
Oui.
Là, il y a plusieurs matchs où il y a eu 50 mises en échec de chaque côté. Là.
Mm-hmm.
Écoute,
c'est
un derby de démolition en première ronde, puis c'est pour moi là, ça m'a sauté aux yeux à quel point les équipes qui ont plus de profondeur sont avantagées. En tout cas, ça a été le cas pour le match numéro 1. Là. Je sais que tu sais, faut pas non plus se perdre dans les statistiques, mais j'en ai une que tu vas aimer.
Mario. Oui, oui.
Dans les 6 premiers matchs, il y a eu 39 buts marqués. 4 de ces buts-là, 39 buts marqués. 4 ont été marqués par des défenseurs. Il en reste 35. Sur les 35 buts, OK, il y a 15 buts. Ça représente 48% des buts ont été marqués par des joueurs de soutien, des joueurs de troisième ou quatrième trio. Fait qu'à un moment donné, là, tu calcules que ces joueurs-là, pour la plupart, là, ne vont pas en avantage numérique. Fait que c'est des buts qui ont été marqués à 5 contre 5.
Oui.
Ça te donne une idée à quel point la profondeur aura une incidence dans le résultat des matchs puis des séries. Parce que si tes joueurs troisième puis quatrième trio contribuent, bon là, c'est sûr, c'est le début, là, mais contribuent à hauteur de 45%, mettons là, 40-45%, je vais te dire une affaire, Mario, il y a des équipes qui passeront pas à travers, là.
Non.
Parce que je regarde la troisième, quatrième ligne, c'est pas ça au pantoute, là.
Non, ils sont pas de calibre en principe, en tout cas, à moins qu'ils nous surprennent, ouais. Danny, là, mais qu'ils nous sortent des lapins du chapeau, ouais. Mais je te suis 100 000 à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de la décision des Blues de Boston? Pas qu'on tombe en bas de notre chaise, mais très, très bon premier match avec Swayman, et on enchaîne ce soir avec Ullmark. Une rotation, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est nouveau, mais les Blues font les choses à leur façon. Parce que ils ont décidé de pas déranger leur gardien. Et suivre la rotation de l'année. Ils ont toujours eu du succès comme ça. Alors, ils disent, Si ça marche pour les joueurs, on essaie de garder de la stabilité. On continue dans ce sens-là. On met quelque chose en place, puis on va le suivre à moins que quelque chose nous force à le changer, là. Mm-hmm. Et que les événements nous forcent à le changer, qu'une contre-performance évidente nous force à changer ça. Mais écoute, c'est clair que Boston, c'est 4 trios, c'est 6 défenseurs, puis c'est 2 gardiens. C'est ça, les Bruins de Boston. Alors, ça va être ça pendant toutes les séries, puis je pense qu'on est prêt à vivre et à mourir, si tu me prêtes l'expression, avec nos convictions. Et je trouve ça...
Moi, j'aime ça que
les, oui, puis je trouve que c'est, j'aime ça que les gens aient le courage de leurs opinions. C'est, à un moment donné, là, tu dis, nous autres, regarde, notre situation, c'est celle-là, puis c'est une bonne situation pour nous. Pourquoi on essaierait de faire comme les autres, puis dire, ben regarde, je te donne un autre exemple. Sorokin, c'est le gardien de but numéro 1 avec les Islanders.
Oui.
Patrick arrive, lui, il y a une historique avec Varlamov, puis il dit, moi Varlamov, là, je vais le relancer.
Mm-hmm.
Puis Varlamov, effectivement, il a plus d'expérience en série, puis il a des meilleurs chiffres en série que Sorokin. Il l'envoie dans la mêlée, puis écoute, il joue bien. Alors, je sais pas s'il va relancer Sorokin en cours de route, mais mon point, c'est que c'est à un moment donné, quand tu arrives en série, tu t'es fait un plan, puis ce plan-là doit impliquer le plus de monde possible. Parce que tu sais jamais ce qui tombe au bout du nez, ça change vite de côté, puis écoute, moi, dans ma jeune carrière de coach, au début, ça m'est arrivé d'être pris par surprise par des événements que j'ai sous-estimé, puis j'ai payé le prix très cher de ça, puis j'ai appris de ça, puis je pense que c'est important. Aujourd'hui, on le voit, là, je regardais la composition des trios avant même que ça commence les séries, puis tout le monde essaie d'étaler sur 4 trios. Puis ça nous amène aux Canadiens de Montréal. Puis je fais une parenthèse, puis je te dis, Canadiens ne peut pas être compétitif avec des 3e, 4e trios comme on a là.
Non, je suis tellement d'accord, Danny. Puis d'ailleurs, en pensant à ça, puis à l'avenir, je demandais en bilan de saison du Rocket, juste avant toi, avec Bruno Gervais, si l'échantillon est trop court là pour Jacky et Tuck, mais qu'il pourrait avoir des profils de gars d'énergie, de gars de 4e trio, des gros bonhommes. Tu sais, on va les laisser grandir, mais comme quoi, je suis à la même enseigne que toi par rapport à ça. Tu parles de derby de démolition, de profondeur, mais on est d'accord tous les deux, puis on verra comment Hutchin et Caulfield évoluent là-dedans au cours des prochaines années là, en déployant leur talent. Si, une fois rendu dans cette zone extraterrestre-là du hockey des séries très, très physique, si on est capable de survivre et gagner. Mais la dimension physique, tu peux pas te mettre la tête dans le sable par rapport à ça. T'en as besoin.
T'en as besoin, puis c'est important que tes joueurs qui sont gros soient capables de jouer. Parce que moi, je t'ai
parlé
de
ça souvent. Pas juste d'être gros, là.
C'est ça. Ça te prend de la production offensive à force égale. Les bons joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui, les joueurs élites, ils marquent pas juste en avantage numérique, là. Ils marquent à 5 contre 5. Et ils font produire leurs coéquipiers à 5 contre 5. Et c'est ces joueurs-là qui ont du succès dans la Ligue nationale maintenant. Mm-hmm. On a parlé tellement, on a vanté McKinnon, on a vanté McDavid. Mais McDavid aujourd'hui, là, il est 2 fois mieux qu'il était à 5 contre 5. Pas juste au niveau de son jeu défensif, au niveau de sa production. Ça veut dire qu'il a raccourci ses présences, il a changé sa façon de jouer, il est mieux placé par rapport à la rondelle, il fait les choses de la bonne façon et il produit plus offensivement. Puis moi, je te dis que je m'amuse à regarder ça puis à le mesurer. Et au niveau de son engagement défensif, la meilleure année de sa carrière au niveau de la production offensive, c'est simultané à sa meilleure année au niveau de l'engagement défensif. Ça veut dire que c'est cette année-là qu'il a donné le plus de mises en échec. C'est cette année-là qu'il a bloqué le plus de tirs, qu'il a tiré le plus souvent la rondelle à l'adversaire, qu'il a gagné plus de batailles sur des rondelles libres. Alors, il y a un paquet d'éléments comme ça que je mesure, puis ça nous donne ce résultat. Alors, ce résultat, il est important, pas juste pour les joueurs 3e, 4e trio, mais mon point, c'est que ça te prend des gars plus costauds contre qui c'est difficile de jouer, puis ton 4e trio, puis ton 3e trio, ils ont le droit de produire, puis c'est important qu'ils le fassent.
Aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il y a un club dans les matchs de dimanche hier, là, Tampa, Floride, Washington Rangers, Colorado, Winnipeg et Nashville, Vancouver, je te demandais quel club t'as le plus impressionné, Danny?
Ben écoute, moi j'aime comment Vancouver s'arrange avec leurs affaires.
OK.
Puis je trouve que c'est une équipe qui en a de la profondeur justement là. Vancouver sont allés chercher une grosse victoire puis ont récupéré 6 points Trois buts, trois passes de la part de leurs joueurs de soutien. Puis moi, je pense vraiment que les transactions qu'ils ont faites et les acquisitions qu'ils ont faites leur donnent une autre espèce de look là. Ils ont un profil d'équipe différent.
Oui.
Puis j'aime beaucoup comment ils réussissent à tenir tête à Nashville. Que Nashville est une équipe qui joue du hockey très 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 physique là. Puis je te dirais en terminant qu'il y a trois gardiens de but dans toute la Ligue nationale qui ont joué plus de 60 matchs cette année, puis les trois sont en série. OK?
Mm-hmm.
Puis rappelle-toi de la statistique qu'on a souvent soulevée, que j'ai parlé de ça il y a plusieurs années. J'ai commencé à regarder combien de gardiens jouaient plus de 60 matchs, puis
oui,
leur succès en série. Puis la dernière fois qu'il y en a un qui a gagné la Coupe, qui a joué 60 matchs, c'est en 2012. Ça fait que les trois gars là, qui ont joué plus de 60 matchs et qui sont en série, là, si ça va loin et c'est difficile, ça va devenir de plus en plus pesant pour eux. Y compris Hellebuck, qui est pour moi un phénomène de la nature, là, parce que c'est année après année qu'il joue 60 matchs. Là, ses chiffres sont très, très bons. Mais je te dirais que c'est Georgiev, moi je pense que Colorado peut pas passer à travers avec un gardien comme ça. T'sais, il joue même pas pour 900, puis encore hier, je suis pas capable de... Écoute, ça finit 7-6, là. Voyons donc.
En tout cas, s'ils sortent de ça, c'est parce qu'ils sont incroyables, parce qu'effectivement, c'est comme, tu pars avec une prise contre toi, là, ouais. C'est très, très clair. Je t'en lance une petite dernière pour réagir aux rumeurs. On a déjà abordé ça, tu sais, je pense pas qu'on voit le Canadien aller là, mais puisqu'il semble que tout le temps quelqu'un pourrait lancer la rumeur, on sait que Martin Saint-Louis aime la culture, s'inspire de la culture de Tampa Bay. Oui. Si le capitaine de Tampa était disponible pour venir jouer une Coupe de l'an à Montréal, tu penses-tu que le love story entre Martin et lui pourrait convaincre Kent Hughes de le faire signer? Tu sais, on sait jamais. Même pour 2-3 ans. Moi, c'est pas ce que je préconise, mais toi, tu vois pas ça pantoute à l'horizon.
Comme on dit chez nous, pantoute.
OK, parfait. Ben, ça pantoute, me rassure d'une certaine façon, mais tu sais, s'il venait sur un contrat de 2 ans, je peux vivre avec 2-3 ans, tu sais, mais j'aimerais mieux un peu plus jeune, là, en 15 secondes.
Quand tu parles de production offensive à 5 contre 5, tu parles d'engagement physique, tu parles, tu sais, d'avoir du plus de tempo, je pense que le meilleur, dans ces éléments-là, Oui, c'est en arrière, effectivement.
Ben, Danny, c'était bien le fun de commencer la semaine avec toi pour parler des séries, parce qu'on n'a pas parlé des séries encore, sauf avec toi. On était dans le hockey féminin, t'es encore sur la vague, si tu veux, t'es le Rocket. Bonne soirée, à bientôt, mon ami.
À bientôt.
Bye-bye. On revient pour la suite.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'était le bilan de la dernière saison du Rocket de Laval hier, avec quelques joueurs qui ont été rendus disponibles aux médias et l'entraîneur-chef Jean-François Hull également. Au lendemain du dernier match de la saison, qui n'avait pas de signification de classement, le Rocket était éliminé depuis vendredi. Un de ceux qui, avec Stéphane Leroux, à qui on parle régulièrement, a été un des plus observateurs les plus intéressés de la dernière saison, nul autre que l'ancien défenseur de la Ligue nationale, Bruno Gervais. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Mario, comment ça va?
Ça va très bien, Bruno. C'est quoi ton évaluation de cette saison-là? C'est-tu une déception? Je veux pas te mettre de mots dans la bouche, mais comment t'évalues cette saison-là?
Ben, c'est certain qu'avec le scénario, surtout de la façon que ça s'est terminé, il y a une déception de pas vivre ces matchs-là des séries éliminatoires. Puis il y a pas cette possibilité-là de pousser un peu plus loin puis de continuer. Surtout avec l'ambiance qu'il y avait à la Place Belle depuis Noël, dans les derniers matchs, ça leur a été survolté, puis je pense que les joueurs étaient déçus de ne pas pouvoir continuer, c'est certain. À mes yeux, c'est un peu, pas, je dirais pas à quoi je m'attendais, parce qu'il y avait beaucoup de talents qui s'en venaient, mais d'entrée de jeu, je pense que les attentes étaient assez hautes pour le Rocket, pour un groupe qui avait beaucoup, oui, de joueurs talentueux, mais beaucoup de nouveaux joueurs qui venaient se présenter. Et c'est pas évident d'amener puis d'avoir beaucoup de joueurs qui font leur début au niveau professionnel, l'ajustement. Il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps. Fait que moi, je m'attendais à ce que le début de saison soit difficile. C'est un peu ce qui est arrivé, mais ça a surtout été devant le filet. Jacob Daubèche, puis Jean-François le mentionnait sur le bilan, à quel point il a été amélioré cette année. Mais ça a été difficile d'entrée de jeu. Devant le filet, il y a beaucoup de matchs en début d'année que le Rocket jouait assez bien pour gagner, mais qui n'était pas capable de sortir de là avec des points. Mm-hmm. Et là, à la toute fin, c'est ce qui a fait la différence.
Ah, et ça, faut en tenir compte quand on évalue le portrait d'ensemble. Il y a des joueurs, il y a un joueur, quelques joueurs qui ont exprimé une certaine déception quant au choix de l'alignement pour les derniers matchs. Bruno, tu peux, tu sais, tu as vécu cette réalité-là. Je sais pas si tu as vécu cette réalité-là en comparant ce que ces gars-là ont vécu d'être retranchés. Je pense pas parce que tu étais quand même bien situé. Tu étais surtout un gars de Ligue nationale. Mais tu sais, avant d'y accéder, c'est sûr que de te faire retirer de l'alignement pour quelqu'un qui débarque de même en renfort, ça doit être décevant. Est-ce que ça a affecté la mobilisation chez le Rocket, tu penses?
Mais les gars qui sont dans la formation, je pense qu'en général, l'attitude a été très bonne. Puis les gars ont tout fait pour tenter d'aider. Mais c'est certain que quand un joueur qui arrive, il a beau avoir tout le talent du monde, quand il y a un joueur qui arrive qui, lui, a fini sa saison, a terminé ses choses, fait juste s'amener ailleurs, rencontre des nouveaux gars, sort des poignées de main, puis dans sa tête, c'est une préparation à l'année suivante. Il essaie des nouveaux casques, des nouvelles culottes. C'est tout peut-être du nouveau pour lui, puis il se présente là. Il n'y aura pas la même préparation ou la vision à un match aussi important comme le Rocket jouait dans la fin de saison. Puis c'est certain que pour l'organisation, s'il s'amène, ben ils vont vouloir jouer, puis c'est souvent ce qui est entendu entre les deux parties. Fait que mm-hmm. Ça devient extrêmement délicat pour l'entraîneur d'amener ça comme de l'enthousiasme. Puis oui, c'est excitant, t'as des nouveaux joueurs, t'as un peu d'aide, tu peux voir ça de cette façon-là. Mais t'as des gars qui font tout ce qu'il faut depuis le début de l'année, qui ont gagné leur place, puis là, ils se font tasser. Pas un gars qui joue mieux qu'eux, juste parce que c'est un nouveau qui arrive, puis d'un coup, puis ils veulent voir de quoi il a l'air, puis tu sais pas comment ça va aller. Puis, tu sais, je veux pas dire que je sais ce qui s'est passé avec la situation du Rocket, mais moi, je me rappelle l'avoir vécu, et on était 10 joueurs qui étaient partis des Islanders de New York en fin de l'année. Tu sais qu'on a vu le Struble, Barron, oui, venir aider le Rocket, mais nous, on était 10 joueurs, il avait même pris un autobus pour nous amener de Long Island à Bridgeport. On s'est présenté pour le premier match des séries.
Puis
La cavalerie débarque, puis dans ces 10 joueurs-là, il y avait 4 joueurs qui n'avaient jamais porté le chandail des Sound Tigers à l'époque de Bridgeport. Ça avait été des échanges à date limite des transactions. Les Islanders voulaient se rajeunir, donc ils avaient été chercher des jeunes joueurs, des gars qui étaient des choix de première ronde, un Tambellini ou un Kovechkov à LA, des choses comme ça. Fait que là, tous les gars débarquent. Mais là-dedans, il y en avait qui auraient aimé ça aller au championnat du monde. Ils ne pouvaient pas parce que là, les séries dans la Ligue américaine, fait qu'ils étaient très déçus, ils bougonnaient. Ils voyaient ça un peu comme une fête, des matchs hors concours, puis l'engagement n'était pas là. Puis là, t'as des gars qui étaient dans le gym, qui s'étaient battus toute l'année pour faire les séries, puis qui regardaient ces gars-là bougonner parce que ça leur tentait pas d'être là. Fait que ça l'avait fait un environnement qui était assez particulier, merci. Je me suis rarement chicané avec des coéquipiers, mais ça m'est arrivé dans cette situation-là. Ah, parce que c'est extrêmement délicat. Puis pour l'entraîneur, c'est dur de continuer à pousser, à avoir le même, tu sais, le mindset là, que tu as dit pour ton équipe. Mm-hmm. Quand t'as du nouveau, que t'as de l'ajustement. Puis là, quand t'es en train d'enseigner ton système de jeu au match 71 et 72 d'une saison, c'est pas évident.
As-tu eu le sentiment de voir quelque chose qui pouvait ressembler à ce que tu nous décris que t'as vécu à Bridgeport chez le Rocket d'un dernier match avec la cavalerie du Canadien qui est débarqué?
Ben, moi, c'est pas comme ça que je l'ai senti. Dans la majorité des gars qui se sont présentés, tu sais, mis à part à la toute fin, le Jack Eye puis Tuck qui se sont présentés, mais ils ont été placés sur des trios avec un rôle un peu plus, je pense, physique qui cadrait bien avec le genre de joueur qu'il pouvait être à ce moment-là. Mais peut-être un peu à la ligne bleue, tu sais, tu l'as ressenti, il y a des gars tout ça qui sont arrivés, puis je pense un Galipeau qui était très solide, il était deuxième du Rocket, il avait différentiel de plus 20, il était excellent des avantages numériques, c'est le genre de gars qui bloquait des tirs, extrêmement apprécié dans le vestiaire, tout un coéquipier, mais c'est le gars à cause de son contrat qui est facile à tasser. Fait, mais tu sais, il n'y a pas deux mots, puis ça continuait. Puis les gars qui se sont présentés là, tu sais, c'est des bons joueurs. Puis le Rocket a joué des bons matchs. Même à Belleville, il jouait un très bon match jusqu'à la pénalité de Stevens. Je voyais pas de signe de gars qui avait baissé les bras, qui avait abandonné. Au contraire. Mais c'est sûr que quand tu regardes le résultat, puis là, tu sais, t'arrives à court, puis ça ne fonctionne pas, bien là, c'est sûr que ces genres de situations-là que tu avais tassées sous le tapis au moment où c'est arrivé, bien là, ils peuvent faire surface.
Jean-François Houle avait identifié en début de saison que le début de saison allait être probablement compliqué. Puis ça s'est passé pas mal comme il l'avait prévu. Je sais pas si tu l'as vu de la même façon, mais tu sais, le club s'est mis à mieux jouer d'Aubèche sur placé devant le filet. Il y avait pas bien d'autres alternatives. On est allé chercher un autre gardien en cours de campagne. Fait que, tu sais, c'est quand qu'il y a des gens qui disent, ben ceux qui chialent de pas avoir été en uniforme en fin de semaine, ben ils étaient en uniforme puis ils ont fait du Rocket une équipe qui était pas en série. Puis tu trouves ça injuste comme commentaire des amateurs qui pensent ainsi, considérant que ben c'est peut-être le temps que ça a pris à d'Aubèche pour devenir un gardien professionnel qui quelque part te coûte des points en fin de saison là.
Ouais, je trouve ça un peu injuste, puis parce que il y a beaucoup de joueurs, puis il y a des joueurs qui ont été tassés, c'était ceux-là qui tiraient la barque en début d'année aussi. C'est pas eux qui ont eu la longue période d'ajustement. Je pense un peu plus à un jeune comme Kidney, Davidson, des gars qui faisaient leur entrée au niveau professionnel, ça n'a pas été évident. Même un vétéran comme Naillet en début de saison, offensivement, ça fonctionnait pas. Mm-hmm. Ça a pris un temps, un bon moment avant qu'il puisse décoller. Mais c'est vraiment, vraiment devant le filet. C'est comme si on avait eu deux gardiens complètement différents. Puis c'est drôle parce que c'est un changement d'équipement autour du 6 décembre. Puis à partir de cette date-là, quand il a changé les jambières, le bouclier, la mitaine, quand il a changé son équipement, c'est devenu un autre gardien. Ah ouais. Il ne reviendra pas au stock qu'il y a eu avant, ça c'est sûr. Mais à partir de ce moment-là, c'est exceptionnel. Ses statistiques, ce qu'il a fait, puis la charge de travail qu'il y a eu, puis la qualité qu'il y a eu, c'est impressionnant à voir. Tu sais, il y a des performances de gardien, puis Kaden Primeau, il a eu des bons moments, puis il a amené son équipe jusqu'au 7e match de la finale de conférence, mais vraiment d'Aubèche qu'il a fait en fin de saison, puis à des moments où on pensait que le Rocket avait un genou à terre, qui allait de super bonnes performances, ça a été exceptionnel pour eux. C'est vraiment le début de saison, puis il y a des matchs là-dedans qu'on faisait, puis le Rocket dominait, était incapable d'acheter un but à des moments importants, puis il s'en faisait tout le temps marquer un ou deux plates à des mauvais moments. Puis ça c'était ça les coulait en début d'année. Puis c'est ces points-là qui ont fait de la différence.
Je soustrais d'Aubèche de la prochaine question parce que je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale éventuellement. Mais je te demande, en dehors des gardiens, Bruno, t'es-tu capable de m'identifier deux, peut-être trois joueurs que tu serais surpris en titi qui ne deviennent pas un morceau, même de quatrième trio du Canadien les prochaines années? Si t'en as pas deux, trois, ben vas-y avec un peut-être, mais bref, je te donne de la marge.
Ben moi, Mayu, il l'a démontré, il y a deux puis trois autres niveaux à son jeu, je pense. Puis c'est une très bonne chose qu'il a fait. Il a joué tous les matchs, mais il rajoute en un extra avec celui du Canadien. Fait que 73 matchs pour lui. Toute une année d'apprentissage dans son cas. C'est sûr que, tu sais, quand on regarde à l'avant, en termes des jeunes attaquants, Farrell, même Kidney, Davidson. Ça n'a pas été genre de voir l'année prochaine. Mm-hmm. Vraiment, est-ce qu'on va être capable de voir leur talent au niveau professionnel? J'ai bien hâte de voir. Joshua Roy, moi, c'en est un qui, tu sais, je pense qu'il l'a montré. On peut le lancer là-dedans, qui est monté. Emil Heinemann, j'ai eu des bonnes conversations avec Francis Bouillon aussi sur Emil Heinemann. Il fait tellement de bonnes choses que c'est un gars que je peux voir un peu à la Lekkonen. Il n'a pas le talent offensif élite, mais il est tellement fort sur les batteurs pour les rondelles, il est bon en échec avant, sa lecture du jeu, il fait tellement de bonnes choses que l'entraîneur s'amuse à continuer à l'envoyer là. Fait que ça, c'est un joueur qui m'a impressionné beaucoup cette année. Puis, mettons, j'ai deux gars qui sont un peu du champ gauche, que j'ai adoré, ils ont des points forts que moi, je pense, pourraient avoir une occasion éventuellement, puis seraient capables de la saisir. Toby Paquette-Bisson à la ligne bleue. Je sais qu'il est un peu plus vieux comme vétéran, mais la façon qu'il joue, il joue tellement dur.
Il est pas loin.
Une bonne mobilité. Il est pas loin. Il est juste à une personne qui oublie son pedigree et son âge, qui fait juste le regarder jouer dans le moment présent. Dire, hey, oui, ça, j'aime ça. Ça, j'ai besoin de ça. Puis ça pourrait être un gars qui peut percer puis jouer un petit peu comme un joueur rôle de sixième défenseur dans la Ligue nationale. Puis l'autre, c'est William Trudeau. Il a eu une saison exceptionnelle en termes de développement l'année passée, mais il a juste 21 ans encore.
Ben oui.
Puis une mobilité, il a une hargne dans son jeu, puis il a un côté compétiteur inné en lui.
J'aime ça.
Tu recherches ça. Après ça, profite. Il y a des matchs, là, quand il était off, on va dire off, là, ben, là ça virait mal. Mais quand il était au bon moment, puis son synchronisme était bon, puis la rondelle le suivait, il est partout sur la glace, puis il est tout le temps menaçant. Fait que lui, c'est pas une question d'habileté, c'est une question de quand les utiliser, puis de lecture, puis de choisir ses moments, puis d'aller chercher la qualité dans tout ça. Mais être compétiteur pour avoir de la hargne dans ton jeu, ça ne s'achète pas au Costco. Tu l'as en toi, puis ça, lui, là. Fait que ça, c'est des éléments qui, hey, wow, avec ça, c'est le fun de travailler, puis il y a encore juste 21 ans.
Je précipite un petit peu, deux petites questions pour finir. La prochaine, tu peux me répondre quasiment par oui ou non, avec peut-être un petit peu de détails. Vois-tu Florian Jacquet et Luke Tuck jouer comme gros alliés de 3 ou 4e trio dans le futur pas trop loin?
Ben, j'ai hâte de voir. J'ai pas vu assez d'eux. L'année prochaine, dans la Ligue américaine, c'est certain.
OK.
Mais c'est là que, de là, on va pouvoir voir, parce que c'est sur une charge de travail d'une saison, que là, tu vois, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est constant, puis est-ce qu'il est capable d'amener ses habiletés à être utile. Mais j'ai pas vu assez de flash d'eux pendant ces deux matchs-là pour dire, oh oui, là, ça, c'est quelque chose.
C'est honnête. Et en terminant, vois-tu une raison de ne pas ramener Jean-François Hull derrière le banc? On dirait que le Canadien veut se donner du temps pour réfléchir à ça, parce qu'on l'a laissé couler son contrat.
Non, moi je vois pas de raison. Dans les facteurs pour ce qui est d'évaluer un entraîneur dans la Ligue américaine, je pense qu'il coche toutes les cases. Mais de là, il y a tellement d'autres facteurs qui viennent s'insérer là-dedans quand tu penses à toute ton organisation, puisque où tu vas aller complémenter, puisque tu vas aller chercher. Puis tu sais, il y a Kent Hughes puis Gordon, ils ont leur réseau de gens qui veulent autour de leurs jeunes. Est-ce que c'est à cause de ça que c'est peut-être quelqu'un d'autre va être là? J'ai hâte de voir, mais Jean-François Hull, si c'est pas à Laval, c'est un peu comme Joël Bouchard, il va se trouver une autre place, il va pouvoir continuer de développer du monde dans le monde professionnel.
Bien dit. Merci beaucoup, Bruno, pour ce bilan. Je te dis à très bientôt.
Hey, à bientôt.
Merci.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.